Bienvenue sur Radio Terminal. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle. Les Totally Spies sont avec nous pour une mission communication.
Oh my god, j'espère que c'est pas une mission ennuyeuse.
Pas du tout, Clover. La communication est essentielle dans toutes les organisations, n'est-ce pas Alex ?
Exactement, et même pour sauver le monde. C'est compris Mandy ?
Oui, Jerry donne souvent des ordres, non ? N'est-ce pas Sam ?
Exact, ça s'appelle la communication descendante. L'information va du supérieur vers les employés.
Genre quand Jerry dit « Les filles, mission urgente !» Et puis nous avec Alex ?
Ben on n'a même pas le temps de finir notre smoothie.
Et vous pouvez répondre à Jerry ?
Bien sûr, quand on lui fait un rapport après mission.
C'est la communication ascendante. Les employés transmettent les informations à leurs supérieurs.
Genre, Jerry, les missions étaient dangereuses, j'ai cassé un ongle.
Très important les rapports sur les ongles. Et entre vous ?
Bah, on se parle tout le temps.
C'est la communication horizontale, entre collègues au même niveau.
Genre, quand Alex oublie le plan et que je dois sauver la situation.
Hey !
Le Whoop communique avec le public ?
Oui, pour montrer une bonne image.
Ça s'appelle la communication institutionnelle, c'est-à-dire améliorer l'image de l'organisation.
Genre, on est des espionnes stylées et professionnelles, surtout stylées.
Et si vous deviez vendre un gadget ?
Easy.
C'est la communication commerciale. Elle sert à promouvoir un produit ou un service.
Ce rouge à lèvres à laser, indisponible pour suivre et être fabuleuse ?
Je prends direct. Et l'argent dans tout ça ?
La communication financière concerne les informations sur les finances.
Genre le budget des gadgets.
Attends, ça veut dire que mes tenues sont limitées ?
Grâce au Totally Spies, on a compris que la communication est partout.
Descendante, ascendante, horizontale.
Institutionnelle, commerciale, financière.
Et surtout, toujours avec style.
Merci à tous et souvenez-vous, bien communiquer, c'est déjà réussir sur sa mission.
Aujourd'hui, on va se poser une question simple. Est-ce que le numérique rend vraiment les organisations plus responsables ou pas du tout ? On est deux contre deux, donc ça risque de débattre un peu. À toi, Ellie.
Franchement, Timel, moi je pense que oui. Aujourd'hui, les organisations sont obligées de faire attention. Par exemple, les données personnelles, c'est devenu super important. Elles sont stockées dans des bases de données, donc les entreprises doivent les protéger, sinon ça peut leur tomber dessus. Et même pour leur image, elles ont intérêt à être responsables.
Ouais, mais tu vois, Ellie, c'est ça le problème. Elles collectent énormément de données, genre vraiment beaucoup plus qu'avant. Et au final, on sait pas trop ce qu'elles en font. Entre les piratages, les reventes de données, le numérique, ça augmente surtout les risques pour les gens.
Oui, mais du coup, c'est pour ça qu'il y a des règles maintenant. Par exemple, le RGPD, enfin le Règlement Général de Protection des Données, ça oblige les entreprises à faire attention à comment elles utilisent leurs données. Elles doivent demander l'accord, être transparentes et tout ça. Donc elles sont pas totalement libres, elles sont encore encadrées.
En vrai, sur le papier, c'est bien, mais dans la réalité, c'est autre chose. Beaucoup d'entreprises respectent les règles juste en apparence. Et les algorithmes, par exemple, personne ne comprend vraiment comment ça marche. Donc la transparence, elle est assez limitée au final.
Donc au final, le numérique oblige les organisations à être plus responsables. Mais entre les règles et la réalité, il y a encore pas mal d'écart.
Ici Alia Césaire pour le Lady Blog. Aujourd'hui, scoop exceptionnel. Comment fédérer les acteurs d'une organisation sans finir akumatisé ? On reçoit Marinette et Chloé. Marinette, explique-nous, dans une organisation privée, publique ou associative, qui sont les vrais zéros ?
Alors, il y a les acteurs internes, les propriétaires et les actionnaires qui cherchent la pérennité, les dirigeants qui fixent des objectifs stratégiques, et bien sûr, les salariés ou bénévoles avec leurs représentants syndicaux. Le but est de concilier leurs attentes, car leurs intérêts peuvent être convergents ou divergents.
C'est ridicule, totalement ridicule. Moi, si j'étais dirigeante, mon seul intérêt serait que tout le monde m'obéisse. C'est ça mon attente.
Justement Chloé, parlons du style de direction. Il y en a quatre, non ?
Évidemment, moi, j'adore le style autoritaire. Je décide, vous exécutez. Ou alors, le style paternaliste. Je suis gentille si vous faites ce que je veux. Le reste là, le consultatif ou le participatif, où on demande l'avis de n'importe qui, c'est pour les amateurs.
Mais pas du tout, Chloé. Pour une vraie dynamique de groupe et un bon leadership, il faut de la coopération. Il faut une culture d'organisation avec des valeurs partagées par tous les collaborateurs. On peut même créer des modes d'action coopératifs, comme des groupes de projets, pour valoriser la production du groupe.
Dernière question pour nos auditrices. Comment garder ces troupes motivées ?
Il faut agir sur les facteurs de motivation. Une bonne rémunération, une communication interne fluide et un contenu de travail intéressant. C'est ça qui permet de mobiliser les ressources humaines pour atteindre la performance.
Et n'oubliez pas mon spa. C'est ce que vous appeliez la QVCT, la qualité de vie et des conditions de travail, non ? C'est indispensable pour mon bien-être au travail.
Exact, Chloé. La QVCT, c'est aussi l'hygiène, la sécurité, la prévention des risques majeurs et surtout éviter les risques psychosociaux comme le stress. Merci les filles. En résumé, pour qu'une équipe gagne, il faut du lien, du respect et de la motivation. C'était Alia pour le Ladyblog. Point final.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio STMG. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très important, quelles ressources pour produire ?
Un thème essentiel pour comprendre comment les entreprises fonctionnent au quotidien.
Oui, et on va essayer de vous expliquer ça simplement, sans vous endormir au bout de 2 minutes.
On ne promet rien, mais on va faire notre mieux.
Pour commencer, une entreprise doit réaliser un diagnostic de ses ressources.
C'est-à-dire qu'elle doit faire un état des lieux de tout ce qu'elle possède.
Un peu comme quand tu ouvres ton sac avant un contrôle et que tu vérifies si tu as tout en cours.
Et généralement, c'est là que tu réalises que tu ne l'as pas.
Ce diagnostic est important car il permet à l'entreprise de prendre de bonnes décisions.
Et surtout d'assurer une production efficace.
Sinon, elle avance au hasard et ça finit souvent mal.
Oui, comme Lucas quand Lucas cuisine sans recette.
Il existe 2 grandes catégories de ressources.
Les ressources tangibles tout d'abord.
Donc c'est ce qu'on peut voir et toucher.
Par exemple, les salariés, les machines et les ressources financières.
Ce sont les éléments concrets de l'entreprise.
Sans salariés ou sans machines, ça devient compliqué de produire.
Et sans argent, c'est même impossible.
Ensuite, il y a les ressources intangibles.
Celles que l'on ne voit pas, mais qui sont aussi tout importantes.
Comme le savoir-faire, les compétences ou encore la technologie.
On peut aussi rajouter l'image de l'entreprise.
Oui, parce qu'une mauvaise réputation, ça peut coûter cher.
Un peu comme une mauvaise note sur l'école directe.
Toutes ces ressources permettent à l'entreprise de produire et de prendre des décisions adaptées. Passons maintenant aux ressources financières.
Une entreprise doit financer son activité quotidienne, acheter, stocker et vendre.
C'est ce qu'on appelle le cycle d'exploitation.
En résumé, sans argent, rien ne fonctionne.
Pour se financer, l'entreprise a plusieurs possibilités.
Elle peut utiliser un financement interne.
Donc, son propre argent.
Ou un financement externe, comme un emprunt à la banque.
Moi aussi, j'ai essayé de demander un prêt.
Et alors ?
Ils ont refusé. Ils ont refusé. Apparemment, acheter des sneakers n'est pas un investissement prioritaire.
Le financement peut aussi être à court ou à long terme.
Court terme, comme les besoins immédiats.
Long terme, pour les projets importants.
Pour analyser la situation financière, on utilise le bilan.
Avec des indicateurs comme le FRNG, le BFR et la trésorerie.
Même si ces termes semblent compliqués, l'objectif est simple.
Vérifier la solidité financière de l'entreprise.
En gros, voir si elle est stable ou si elle commence à trembler.
Terminons avec les ressources humaines.
La production a un impact direct sur les salariés.
L'entreprise doit donc anticiper ses besoins.
C'est ce qu'on appelle le CPEG.
Elle doit analyser 2 aspects.
Le quantitatif, combien de salariés sont nécessaires.
Et le qualitatif, quelles compétences sont nécessaires ?
Parce que recruter sans les bonnes compétences,
c'est comme me demander de préparer une machine.
On est vite.
Ouais, c'est sûr. Excellent.
Ensuite, l'entreprise doit s'adapter.
Avec la formation,
le recrutement
et la mobilité interne.
L'objectif, c'est d'avoir les bonnes personnes au bon moment.
Un peu comme en contrôle, sauf que nous, on n'a pas toujours les bonnes réponses.
Excellent, Lucas.
Pour conclure, une entreprise doit bien connaître ses ressources.
Elle doit les analyser pour prendre de bonnes décisions.
Bien gérer ses finances.
Et adapter ses ressources humaines.
Merci à tous de nous avoir écoutés.
On espère que vous avez compris.
Et que vous vous êtes pas endormi.
Sinon, vous pouvez toujours écouter l'émission.
À bientôt sur Radio STMG.
Coucou mes petits artistes, je suis toujours accompagnée de Louane, ma fidèle collaboratrice, pour parler d'un sujet qu'on aime tant, la mode.
Coucou tout le monde, toujours aussi contente de parler de ce sujet avec vous, aujourd'hui, et même un jour spécial, car on accueille une personne spéciale.
Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais nous avons la chance d'accueillir Anna Wintour sur notre plateau.
Alors, un tonnerre d'applaudissements pour accueillir notre Anna Wintour favorite pour parler de marketing.
Alors bonjour Anna Wintour, j'avais une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de la célèbre citation de Steve Jobs qui dit « C'est dur de fabriquer des objets pour une catégorie de gens. La plupart du temps, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent avant que vous leur montriez. »
Bonjour. Alors oui, il avait raison, cela est même une approche marketing. On ne demande pas l'avis des gens, on crée un besoin qu'ils n'avaient même pas imaginé. On invente un nouveau marché. Quand j'ai mis un jean à 50$ avec un top de haute couture en couverture de Vogue, personne ne l'avait demandé, mais tout le monde l'a voulu après.
Mais tout le monde n'est pas un génie visionnaire. Certaines marques se contentent de l'approche réactive, non ? Elles répondent juste à un besoin déjà exprimé.
C'est le niveau zéro de l'élégance. C'est attendre qu'il pleuve pour vendre des parapluies. C'est utile, certes, mais c'est du suivisme.
Et l'approche anticipatrice, alors ? C'est entre les deux ?
Exactement. On étudie les tendances latentes, on sent que le public est fatigué du gris, alors on prépare le rose pour la saison prochaine avant même qu'il ne sache qu'il s'ennuie. On a un coup d'avance.
Il reste une dernière approche dans votre manuel, votre bible de la mode, l'approche médiatrice, là où on implique directement le client dans la création.
C'est très moderne, c'est un dialogue, on ne se contente pas de vendre, on coopère. Les marques de cosmétiques qui demandent à leurs abonnés de choisir les couleurs de la prochaine palette, c'est ça, on crée ensemble.
Pour résumer, Anna, pour réussir, il faut soit écouter très fort, soit deviner, soit collaborer.
Ou alors, vous imposez votre propre réalité. C'est beaucoup plus amusant. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un défilé à valider.
Merci Anna, c'était le micro de la mode. On se retrouve après une courte pause musicale.
Radio